Morning Edition from NPR News.
Das sieht hieß an Winterhausen.
France Inter, le 18.
Et direction ce soir le Brésil, avec l'invité d'un jour dans le monde, le Brésil, où on a bien cru un moment, la semaine dernière, qu'on était proche d'un coup d'État mis en place par le président Jair Bolsonaro lui-même, en délicatesse, avec à peu près toutes les institutions de son pays. Un président surtout dans une course en avant, alors qu'il perd ses soutiens populaires. On y viendra à un an d'élection au Brésil. Espérons que le climat sera plus serein. Alors, rien n'est moins sûr. Le bruit du monde vous emmène dans le lit du fleuve Brahmapoutre. C'est en Inde, un fleuve qui, à chaque débordement, ruine et fait fuir des paysans locaux qui deviennent autant de réfugiés climatiques. Et vous comprendrez pourquoi la main de l'homme a terriblement accentué cette situation. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Logeni a trouvé du tabac au Burundi, des ouvriers turcs sur TikTok et un pays qui n'existe pas. 18h50, passons genre dans le monde et Julia Foyce qui nous parlera notamment de l'Espagne, décidément en avance dans la lutte contre la violence faite aux femmes. 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four, le grand pari de Biden et sa réforme fiscale. Le monde est vasté, on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Maud Chirio.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Paris-Est Marne-la-Vallée. Votre spécialité, c'est l'histoire contemporaine du Brésil et ça tombe bien. Nous sommes à un an, quasi pile d'ailleurs, ce sera au mois d'octobre prochain, l'élection brésilienne. Et c'est peu dire que ce pays est dans un état de chaos. En ce moment, nous sortons là d'une séquence qui aurait pu être même une séquence de bascule, à se demander si coup d'État il y aurait ou pas. Est-ce qu'on est vraiment passé à deux doigts d'un coup de force, d'un coup d'État, d'ailleurs est-ce qu'on appelle ça comme ça, de Jair Bolsonaro contre les institutions, c'est-à-dire contre la Cour suprême, contre le Tribunal suprême, contre le Congrès? Est-ce qu'on a été à ça, en fait?
C'est difficile de savoir si on a été à ça, vraiment. Je pense que Bolsonaro et son entourage avaient conscience qu'ils n'avaient pas encore les forces suffisantes pour véritablement faire ce qui était annoncé par une partie de ses partisans, c'est-à-dire envahir la Cour suprême et mener à la fermeture de la Cour suprême. Mais ce qui est certain, c'est que l'épisode qu'il y a eu donc le jour de la fête nationale, le 7 décembre, mardi dernier, était destiné à mobiliser les troupes de bolsonaristes, les entraîner, les réunir, faire une démonstration de force,
chauffer
dans une logique,
aussi,
voilà, les chauffer, les faire venir de différentes régions du Brésil en finançant largement leur venue, y compris en les finançant eux-mêmes, dans le but de montrer les muscles et de préparer une démarche qui sera une démarche de refus du processus constitutionnel dans le but de rester au pouvoir, puisque c'est l'objectif de Bolsonaro et de son entourage.
Alors on va développer plus avant, mais pour comprendre justement cette séquence, on va y aller au Brésil, rejoindre Anne Vigna qui va nous remettre en tête justement ces derniers développements dans le camp de Bolsonaro.
Ils étaient bien des centaines de milliers dans la rue le jour de la fête de l'indépendance. Vêtus des couleurs jaunes et vertes du Brésil, ils avaient répondu en masse à l'appel du président Bolsonaro contre les institutions qui, selon lui et ses partisans comme Juan, l'empêchent de gouverner.
On manifeste en appui au président Bolsonaro qui lutte pour le pays. Il ne peut pas diriger le pays à cause des institutions. La Cour suprême ne peut pas continuer à attaquer le président, empêchant le peuple de bénéficier des décisions qu'il prend. Et on doit se battre contre cela. Le peuple doit aller dans la rue.
L'autre menace qui pèse sur le président est le communisme, selon ses partisans. Un communisme représenté par la figure de l'ancien président Lula pour Raquel.
On veut que Bolsonaro soit réélu. On appuie à 100% le président. On veut que notre patrie soit libre, qu'elle soit libre du communisme. Nous sommes brésiliens, patriotes, et notre drapeau ne sera jamais rouge.
Bolsonaro a participé à ces mobilisations à Brasilia et à São Paulo. Dans ces deux villes, il a, comme d'habitude, incité à la violence contre le juge de la Cour suprême, Alexandre de Moraes, qui mène une enquête contre les membres de la famille présidentielle pour corruption.
Vous dire que ce président n'obéira plus à aucune des décisions du juge Moraes.
Par ces mots, le président a bien enflammé ses supporters qui ont cru au grand soir, mais il a également mis le doigt dans l'engrenage de la destitution. Car refuser les décisions de justice est un crime de responsabilité inscrit dans la Constitution. Deux jours plus tard, Bolsonaro faisait donc volte-face et promettait d'obéir à la justice et de stopper toute mobilisation. Mais pour beaucoup de ses partisans qui s'expriment sur les réseaux sociaux, c'est une trahison. Comme le dit cet agriculteur du sud du pays qui brûle la propagande du président dans une vidéo.
Bolsonaro, j'ai dépensé mon argent pour faire de la propagande pour toi pour 2022. Tu es un lâche, un traître. Je vais tout brûler. J'ai dépensé de l'argent, perdu mon temps pour aller à Brasilia te défendre. J'ai fait 1700 km en autobus, en 30 heures en autobus, pour que tu fasses ce sketch maintenant.
Des coups de gueule comme celui-là, il y en a désormais beaucoup sur Internet. Le grand soir promis par le président n'a pas eu lieu. Par contre, la droite traditionnelle a manifesté dimanche et devrait s'unir à la gauche le 15 novembre prochain pour demander la destitution du président.
Merci à Anne Vigna pour le reportage. Mochirio, est-ce qu'il s'est dégonflé? Est-ce qu'on va le dire comme ça? Est-ce qu'il y a une part de ça aussi? Est-ce qu'il a eu peur?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'establishment, c'est-à-dire tout un tas d'institutions, de représentants d'institutions, les présidents de la Chambre, des juges de la Cour suprême, des commandants militaires, se sont entendus pour encadrer le président Bolsonaro et que il a été soumis à cet encadrement et que effectivement on voit que parmi ses partisans les plus fanatiques qui étaient disposés à aller jusqu'au bout d'un processus autoritaire avec lui, il a une chute vraiment de popularité avec des manifestations d'hostilité hein, de la part de ses partisans, des leaders en particulier les leaders des camionneurs qui ont bloqué les routes, qui ont fait des longs serpents de camions sur l'esplanade sur l'esplanade du plateau central hein. Et donc, il a perdu un pari, probablement. La question est, qu'est-ce que veulent faire ces institutions? Qu'est-ce qu'elles ont en tête? Certainement pas d'empêcher un péril autoritaire et de laisser la démocratie suivre son cours, puisque à peu près tous les représentants de ces institutions sont des acteurs absolument centraux de la dérive autoritaire qui se déroule au Brésil depuis maintenant 6 ans. Donc, ils ont un agenda politique dont il est difficile de savoir actuellement quelle va être la place de Bolsonaro. Est-ce que ça va être la place de quelqu'un qui est un espèce d'épouvantail qui tente de justifier une remise en ordre, qui serait une remise en ordre des adultes dans la pièce, c'est-à-dire de militaires, de ce qu'on appelle la troisième voie, qui montrerait la solidité des institutions, mais qui ne serait pas, qui pour l'instant n'a pas du tout de popularité dans les sondages. Est-ce que ça va être une démarche vers la destitution de Bolsonaro? Pour l'instant, c'est pas complètement établi. Il y a des interprétations disant que Bolsonaro est en train de négocier son immunité pour après, parce qu'il a énormément de problèmes judiciaires, ou alors est-ce qu'il est en train de négocier pour ne pas être destitué et que la solution de l'establishment, ce serait de le destituer et de mettre le vice-président qui est un militaire à sa place.
Mais ça veut dire que au fond, il a raison, en fait, quand il dit que les institutions sont, il y a quelque chose de pourri, pardon, au Royaume du Brésil, et que les institutions, de toute façon, ne fonctionnent pas. Au fond, il y a une grosse part de vérité dans ce qu'il dit. Au fond, est-ce que ça justifie d'une certaine façon auprès de ses partisans le fait que de toute façon, il faudra bien y aller par la force, en fait.
Alors, ce qui est complètement faux dans son discours et dans le discours de ses partisans, c'est qu'il représenterait la majorité de la population, qu'il représenterait le peuple. Actuellement, Bolsonaro n'a même plus 25%.
Alors voilà, j'allais vous demander d'ailleurs, parce que le noyau dur, c'est une chose. D'ailleurs, il a été émoussé, j'imagine, par cette histoire, le noyau dur. Donc, c'est quoi le noyau dur, en fait?
Alors, le noyau dur, c'est une quinzaine de pourcents qui est disposé à aller jusqu'à. Qui approuve cette démarche. Pour l'instant, il a 25% d'opinion favorable, donc il ne gagnerait plus des élections, hein, faut être clair sur ça. Ouais. Il n'a plus une opinion majoritairement positive. S'il y a des élections, il va les perdre. D'autant plus si le candidat de centre-gauche historique, Lula, continue de consolider sa posture de phénix. Donc, les institutions actuellement, qui effectivement ont renoncé depuis assez longtemps à suivre les règles de la Constitution et du droit. C'est pour ça que Dilma Rousseff s'est fait destituer sans raison valable. C'est pour ça que Lula a été emprisonné sans raison. Les institutions sont effectivement en partie pourries au Royaume du Brésil. Mais Bolsonaro essaie de se montrer comme le représentant du peuple contre ces institutions. Et ça, c'est complètement faux.
Moi, j'avais cru comprendre quand même que la Cour suprême était rentrée dans les clous, d'une certaine façon. Notamment au moment de la libération de Lula, quand on se rend compte effectivement que tout avait été vicié au départ. Donc, j'avais cru comprendre que ça restait quand même quelque chose d'assez solide.
Alors, la Cour suprême est rentrée dans les clous. Apparemment, depuis 2 ans désormais, la Cour suprême a décidé de respecter le droit. C'est une grande nouveauté et d'arrêter d'instrumentaliser de manière éhontée le droit pour jouer sur la scène politique. Mais il n'y a aucune raison de penser que tous ces juges aient une révélation sur le fait d'arrêter d'avoir un rôle politique. C'est évidemment pas le cas. Tous sont extrêmement insérés politiquement et là, ils jouent une carte politique. La question, c'est quelle est la carte politique qu'ils jouent? Est-ce qu'ils passent par l'impeachment? Et dans quelle mesure ils vont s'associer à des forces politiques pour exister dans les élections présidentielles. Tous ces acteurs-là sont des acteurs liés au centre droit et ils souhaitent une candidature qui pourrait battre la gauche. Ils l'ont pas encore véritablement trouvé, mais elle nécessite que Bolsonaro s'évince.
Les partisans de Bolsonaro, on l'a bien vu, sont dépités. Qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois? On compare très souvent Bolsonaro à Trump à bien des égards. Là, d'ailleurs, la tentative aussi voulait ressembler à ce qui s'est passé au Capitole. Sauf que la différence, c'est que Trump avait une forme de maîtrise quand même de ses partisans. Est-ce que Bolsonaro a la même? Ou est-ce qu'il peut à un moment être dépassé par ces 15%-là qui n'ont pas besoin de l'attendre pour semer le chaos encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui?
Alors, d'abord, je suis pas du tout sûre que Bolsonaro ait perdu ses troupes en 24 heures. Bien sûr, il en a déçu de nombreuses qui ont fait des efforts, qui attendaient depuis deux mois cet événement.
Est-ce qu'il les maîtrise?
Alors, est-ce qu'il les maîtrise? Non, probablement pas. C'est une figure d'incarnation, Bolsonaro. La dynamique ultra-conservatrice, la haine contre le communisme, le rejet de la classe politique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que Bolsonaro, mais Bolsonaro l'incarne. Je suis pas du tout sûre qu'il ait perdu toutes ses troupes. Mmh. La machine de fake news continue en marche, c'est des gens qui sont toujours dans des bulles d'information et qui sont désireux de violence. Mmh. Et ça, il peut encore reproposer quelque chose à ces militants-là. Donc, premièrement, il n'a pas forcément perdu toutes ses marges de manœuvre. Et ses marges de manœuvre, c'est la police militaire, c'est des gens qui sont armés, entraînés. Donc, c'est des gens qu'il faut craindre d'un point de vue de la violence politique.
Justement, pardon, là-dessus, sur l'armée, notamment, la police militaire, mais aussi l'armée, là aussi, on a du mal à comprendre le jeu. On a l'impression qu'à la fois, ils sont là, puisqu'ils sont dans toutes les institutions, ils sont dans le gouvernement aussi, en très grand nombre, etc. Et on a un peu l'impression quand même qu'ils ont les yeux dans le dos en se disant qu'il ne faut pas griller toutes les cartouches non plus si jamais quelque chose est en train de basculer. Donc ils sont où en fait les militaires? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'on sait d'ailleurs? Est-ce qu'ils le savent eux-mêmes? Est-ce qu'on sait ce qu'ils veulent?
Alors il y a deux questions complètement différentes. Il y a la masse militaire, que ce soit la police militaire mais aussi les troupes des forces armées qui sont, surtout pour la police militaire, extrêmement bolsonarisées. Donc c'est une masse militante. Mmh. À l'extrême droite et complètement détaché d'un référentiel démocratique. Et il y a les états-majors, ça c'est une autre chose. C'est eux qui font la politique de l'institution militaire. Et les états-majors, ils ont un projet de pouvoir, ce depuis longtemps. Ce projet de pouvoir, c'était d'empêcher un certain nombre de politiques mémorielles sur leur institution, ce qui a été complètement accompli par Bolsonaro. Et l'autre aspect de ce projet de pouvoir, c'est d'investir l'État, d'avoir des ministères, d'avoir des têtes d'administration, d'être présent dans les... C'est absolument fait. C'est complètement réalisé. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a un consensus dans les états-majors sur le fait de ne pas perdre ses positions. Et c'est ça l'objectif. Le projet de pouvoir des militaires, c'est de gouverner de pousser à un agenda très conservateur et d'être présent. Et de bénéficier d'institutions.
Mais dans l'esprit des Brésiliens, est-ce que c'est au point où on en est, est-ce que ça devient un recours, ce qui serait quand même un retournement de l'histoire complètement dingue, mais est-ce que ça existe cette idée-là auprès de certains Brésiliens ou pas?
Alors, oui, ça existe, mais par rapport à l'opinion extrêmement favorable qu'avait l'armée depuis la fin de la dictature, qui avait traversé la dictature sans avoir une dégradation de son image dans l'opinion, là, de manière inédite depuis quelques mois, l'image de l'armée se dégrade très fortement parce qu'elle est trop associée à Bolsonaro et donc elle est de moins en moins un recours auprès de l'opinion.
On a beaucoup dit à un moment que le Brésil est un pays polarisé, mais au fond, en vous écoutant, je me dis que c'est pas vraiment un pays polarisé, en fait, parce qu'on voit pas très bien les pôles, en fait.
Alors, c'est beaucoup moins un pays polarisé. Un exemple très clair en est un sondage que je viens de voir sur les gens qui étaient présents dans la rue le 12 septembre, c'est-à-dire dans la manifestation non de gauche, anti-Bolsonaro, et les personnes dans la manifestation avaient en partie voté pour le candidat de centre, en partie voté pour Lula, et en partie voté pour Bolsonaro. Ils étaient tous dans la rue en même temps. Donc il y a une dépolarisation qui explique le fait qu'actuellement, dans les sondages, Lula est très haut, et les gens qui disent aller voter pour Lula, c'est des gens qui en partie ont voté Bolsonaro en 2018.
Donc est-ce que c'est... on a bien compris ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que les institutions qui effectivement mènent la danse sont en train de chercher un candidat de droite qui serait pas Bolsonaro, mais donc en attendant ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est tous contre Bolsonaro et donc y compris la droite, on va dire traditionnelle, derrière Lula aujourd'hui? Est-ce que c'est à ça que ça ressemble? Est-ce que c'est ça qui dit pourquoi les sondages de Lula sont si hauts ou pas?
Alors non, c'est pas ça qui se passe. L'ensemble de la classe politique va faire tout ce qu'elle va pouvoir pour empêcher que Lula passe ou de quelqu'un qui serait de son camp, parce que derrière tout ce groupe, déjà, il y a des postes, il y a des gens qui sont dans des postes, qui sont dans des administrations, qui ne veulent pas les perdre et qui savent que la gauche arriverait avec son personnel. Et aussi parce que ces groupes politiques ont un agenda de réforme libérale qui serait interrompu, peut-être pas renversé, mais interrompu avec le retour de la gauche. Et ça, c'est inenvisageable pour ces gens-là.
Mauthieriot, juste en un mot, puisqu'on a déjà dépassé le temps, est-ce que vous diriez dans l'année qui reste avant les élections que les choses peuvent retomber, se calmer, ou est-ce qu'on va vous avoir comme invité tous les 15 jours parce que le Brésil est en train de partir à volo?
Je ne vois pas comment on pourrait rentrer dans un chemin simplement démocratique rapidement, parce que la figure de Bolsonaro est trop excessive et trop incontrôlable pour l'instant être facilement encadrée par un quelconque système politique.
Eh bien, allez dans 15 jours. Alors, merci beaucoup, Mauthieriot, de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde et c'est surtout le mugissement d'un fleuve, le Brahmapoutre en Inde, qui fait des ravages désastreux à chaque crue parce que la main de l'homme a touché aux équilibres, notamment dans l'Himalaya. Le bruit du monde, la suite, c'est sous les radars. Sébastien Logénie.
Nous irons aux confins de l'Europe de l'Est dans un pays qui n'existe pas, la Transnistrie, mais dont l'équipe de foot, elle, joue en Ligue des Champions.
Passons genre dans le monde et Julia Foyce. Bonsoir Julia.
Bonsoir. Alors un petit lion d'or, un triplé gagnant et peut-être que le signe que les temps changent. Enfin, on ne sait pas.
Le monde d'après Jean-Marc Four. Bonsoir à vous.
Bonsoir à tous. C'est l'heure de vérité pour Joe Biden. Sa réforme fiscale, la hausse des impôts arrive devant la Chambre et c'est sans doute le moment clé de son mandat.
À tout de suite tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini et Lana Del Rey nous fait voyager aussi. Dark but just a game et c'est sur France Inter.
It's dark but just a game. That's what he would say to me. The faces aren't the same, but their stories all end tragically. Sweet, why would I have a baby? And that's the price of fame. A deal as old as time.
Stay the same, no rose left on the shine.
Le bruit du monde ce soir est en Inde, où le fleuve Brahmapoutre devient incontrôlable sous l'effet du changement climatique. Chaque année, les habitants de la vallée de ce fleuve font face à des crues monstres, des villages sont dévastés, des récoltes réduites à rien. Un phénomène amplifié par la bétonisation de l'Himalaya et qui menace désormais des millions de paysans, autant de déplacés climatiques. Le reste, c'est Combastin qui raconte.
De part et d'autre de la route asiatique, la 4 voies de l'état d'Assam en Inde, l'eau s'étend à perte de vue. Après une heure de route depuis la capitale Guwahati, on croise des abris de fortune sur le bas-côté du bitume surélevé. À 33 ans, Anjuma Begum survit là, avec son mari et ses 3 enfants, depuis 2 semaines.
Nous avons été surpris par la montée soudaine des eaux qui a englouti notre village. Nous avons construit cet abri en bois dans l'urgence.
De son village, Poup Deopani, on n'aperçoit que quelques toits à des centaines de mètres sous les eaux.
Nous sommes une centaine de familles à vivre ici comme des rats. Pas d'électricité, pas de toilettes, pas d'eau potable. Mon bébé a attrapé la fièvre à cause des moustiques et j'ai peur qu'il se noie. Donc je l'ai attaché au meuble.
Comme quelques 600 000 habitants, Anjuma et sa famille sont victimes des inondations monstres qui frappent cet état après une semaine de pluie intense. En ce début du mois de septembre, quelques 1200 villages seraient sous l'eau du Brahmapoutre qui traverse le nord-est indien avant de rejoindre le Gange.
Durant le confinement, nous n'avons pas pu travailler. Maintenant, c'est notre récolte de riz qui est en danger. Nos vaches et chèvres ont été emportées par les flots. Le gouvernement nous a donné quelques denrées, mais je ne sais pas comment nous allons nous en sortir.
La situation relèverait de la simple catastrophe naturelle si elle n'était pas devenue la norme dans le bassin du Brahmapoutre. En 10 ans, le fleuve a changé de comportement. À 26 ans, Probin Pegu nous fait monter dans une barque pour aller voir ses champs engloutis près du village d'Aragatoli.
Regardez cette eau à perte de vue. Tout est fichu cette année. J'avais investi 500 euros et beaucoup de temps pour planter du riz. On plante toujours vers la fin août parce que les grandes crues sont normalement finies. Qu'est-ce qu'on va faire ?
Après 2 jours sans pluie, le niveau de l'eau a un peu baissé. Probin peut enfin accéder à sa maison. Elle est construite sur pilotis avec un étage pour stocker les grains. Cette architecture typique se retrouve dans toute la région et montre que les populations qui vivent près du Brahmapoutre savent normalement faire face à ces caprices.
Le problème n'est pas tant les inondations que le fait qu'elles sont désormais irrégulières et soudaines. Cette année, il y a eu peu de précipitations, mais une crue tardive. D'autres années, il y a eu trop de pluie et jusqu'à 6 crues. C'est directement lié au changement climatique.
Dadu Dutta est coordinateur pour l'ONG North East Affected Area Development Society. Il nous a donné rendez-vous au village de Jajimukh, pas loin duquel 2 rivières se jettent dans le Brahmapoutre.
Un autre problème majeur dans la région est l'érosion des sols. Des villages et des terres cultivables sont grignotés lors de chaque inondation. La rive que vous pouvez voir de l'autre côté de la rivière a reculé d'une 10 mètres. En 2020, on y trouvait encore des manguiers.
Chaque année, 80 km² sont grignotés par le fleuve. Face à ce dérèglement menaçant des millions de personnes, le gouvernement de l'Assam tente tant bien que mal de jouer la carte de l'adaptation. Des routes surélevées sont construites pour canaliser les crues. Une réponse insuffisante, explique Dadu Dutta.
Ce hameau surélevé a été construit en 2007 par l'État pour accueillir des familles dont le village avait été rayé de la carte. Mais cela ne suffit plus face à la taille des crues d'aujourd'hui. Construire toujours plus haut ne peut pas être une solution durable.
Long de près de 3000 km, le Brahmapoutre est alimenté par des dizaines d'affluents dans l'Himalaya chinois et indien, ainsi que par l'eau des moussons. Mais avec le changement climatique, les pluies deviennent de plus en plus erratiques et intenses, pendant que la fonte des glaciers de l'Himalaya s'accélère chaque été. Expert en conflits transfrontaliers, Mirza Zulfikar Rahman juge que c'est aussi le trop-plein d'interventions humaines sur le fleuve qui explique ce désastre.
Pour protéger les grandes villes, les raffineries et les plantations de thé, on a construit des digues. C'était une solution d'urgence et avec le temps, des couches de béton se sont ajoutées aux autres. Aujourd'hui, cela exacerbe les inondations. Par ailleurs, la Chine revendique la souveraineté de l'État d'Arunachal Pradesh. L'Inde veut y marquer son territoire avec des infrastructures géantes comme les barrages. Cette course industrielle entre l'Inde et la Chine est en train de détruire tout le cycle hydraulique et écologique de la région.
En plus du changement climatique, le grand fleuve paie les frais de cette rivalité géopolitique et d'une approche trop technicienne de l'écologie dans la région. Les habitants de l'Assam en sont les victimes impuissantes.
Dernier mot. Voilà, je disais que j'avais pas encore dit mon dernier mot, mais comme Bastien, lui, venait de dire son dernier mot, c'est à cause de Julia Foyce, je tiens à vous le dire. Merci beaucoup, comme en tout cas, à très vite. Le bruit du monde, la suite. Avant d'aller voir Julia Foyce, passe d'abord sous les radars avec Sébastien Logénie, et c'est maintenant. Sébastien, nous sommes dans les rues de Bujumbura, ou Burumbura, je ne sais jamais d'ailleurs.
Bujumbura,
la capitale du Burundi, qui apparaît dans un nouveau scandale de corruption lié au tabac.
Un scandale révélé par une ONG qui commence à faire du bruit, l'ONG anti-tabac Stop, créée par l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg. Et dans son dernier rapport, l'ONG accuse le géant britannique des cigarettiers, British American Tobacco, d'avoir effectué des versements douteux dans plusieurs pays africains pour influencer notamment leur politique de santé. Le Burundi en fait donc partie, mais pas seulement. 236 paiements au total pendant 5 ans dans une dizaine de pays africains, Comores, République démocratique du Congo, Kenya, Malawi, Rwanda, Soudan, Tanzanie, Ouganda, Zambie. 600 000 dollars versés sous forme d'argent, de voitures, de dons de campagne et des dizaines de responsables politiques, de fonctionnaires, de journalistes, d'employés d'entreprises concurrentes. L'ONG s'est notamment appuyée sur des lanceurs d'alerte comme cet homme, Paul Hopkins, qui dès 2015 révélait à nos confrères de la BBC qu'il était employé par la British Tobacco pour corrompre ses adversaires. J'étais un tueur à gages commercial, dit Paul Hopkins. Mon boulot consistait à m'assurer que nos concurrents n'aient pas d'espace pour respirer, et ça incluait des pots de vin, des infractions à la loi et les pressions. Voilà, la question de la corruption dans le milieu du tabac n'est pas un sujet nouveau. British American Tobacco, qui opère dans 170 pays, rejette catégoriquement ce qu'il estime être une description erronée de ses activités, ajoutant qu'une enquête britannique l'avait innocenté de tout acte répréhensible en janvier dernier. Enquête à suivre.
En Turquie, des ouvriers font leur show sur TikTok.
Oui, ce sont des vidéos étonnantes qu'a remarqué notre consoeur de RFI et qui font fureur sur ce réseau social très prisé des ados. On y voit des ouvriers dans des usines, sur des chantiers, dans des champs ou comme ici sur des étals de légumes sur un marché d'Istanbul. Une musique enviablée, n'est-ce pas, Fabienne? Sur cette vidéo, par exemple, on montre des vendeurs de légumes paradants, comme lors d'un défilé de mode, salade Batavia à la main ou panier de bananes sur la tête. Une façon légère, parfois très drôle, de se mettre en scène. Il y a aussi ces ouvriers du bâtiment qui se lancent des défis. Descendre un échafaudage de 6 étages en moins de 15 secondes, casser des blocs de pierre gigantesques à coups de marteau. Pas de message politique ici, juste une façon de valoriser son métier, de se rendre visible, alors qu'il font partie des professions les plus mal payées dans le pays. L'un d'eux a fini interviewé par la télé turque avec cette confidence simple et touchante. Pour la première fois, je me suis senti vu par d'autres, je me suis senti exister.
Allez, nous partons maintenant pour un pays qui n'existe pas et qui s'appelle la Transnistrie.
Oui, vous connaissez sans doute ce petit territoire voisin de la Moldavie qui proclame son indépendance depuis 1991, vous le devriez, depuis la dislocation de l'URSS, mais qui n'est toujours pas reconnu, ce pays, par l'ONU, et qui ne le sera sans doute jamais. Bref, un confetti autonome, 470 000 habitants, la moitié de la Corse, sous perfusion de Moscou, et qui cherche par tous les moyens à se faire connaître. Et le ballon rond va peut-être de lui donner une occasion en or. Il se trouve en effet que le club de football de la capitale de Transnistrie, le Sheriff Tiraspol, est qualifié pour la très sélecte Ligue des Champions qui commence ce soir. Alors comment est-ce possible? Eh bien, le pays n'existe pas officiellement, mais le club de la capitale lui joue dans le championnat moldave, donc dans un championnat européen, grâce à des joueurs brésiliens, grecs ou colombiens, et à l'argent d'un homme d'affaires ancien du KGB, très proche du pouvoir. Premier match demain face aux Ukrainiens de Shakhtar Donetsk, puis un déplacement chez leurs glorieux confrères espagnols et italiens du Real Madrid et de l'Inter Milan. Les supporters du Sheriff Tiraspol n'en reviennent toujours pas. Igor a 61 ans, il soutient son club depuis les débuts, et c'est bien, dit-il, qu'il y ait des gens en Transnistrie, des gens intéressés par le football, qui possèdent beaucoup d'argent, qui aident l'équipe. Comme ça, plus de gens découvriront que ce pays existe, même s'il n'est pas reconnu. Satisfaction, on le comprend bien, du côté des supporters. En revanche, chez le voisin moldave, on est beaucoup moins content. Ça donne de la visibilité, dit-on, à un état voyou avec lequel la Moldavie est toujours en conflit, malgré un cessez-le-feu qui dure depuis 30 ans. Que les Moldaves se rassurent toutefois, il y a très peu de chances que le Sheriff Tiraspol dépasse les matchs de poule en Ligue des Champions.
Mais qu'est-ce que vous en savez?
Mais c'est vrai.
Est-ce que vous savez comment on appelle les habitants de Transnistrie?
Les Transnistriens, peut-être.
Oui, sûrement. Merci beaucoup, Sébastien. Vous chercherez quand même pour demain.
Tout à fait.
Vous partez avec les Naxx. My Sharona, c'est sur France Inter. Ils l'ont dit, My Sharona et les Nax sur France Inter. Mesdames, messieurs et autres gens, Julia Foyce est dans la place.
France Inter. Un jour dans le monde.
Et Julia, chaque semaine, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. On commence par la bonne nouvelle de la semaine.
Qui nous vient de Venise, Venise où se clôturait samedi la 78e édition de la Mostra et le Lion d'Or fut remis à...
Le Bernement. Happening by... Audrey Diwan.
I did this movie with anger.
J'ai fait ce film avec colère. Je l'ai fait avec envie aussi. Je l'ai fait avec mon ventre, mes tripes, mon cœur et ma tête.
Alors, la bonne nouvelle, Fabienne, n'est pas tant qu'une femme ait reçu le Lion d'Or, mais plutôt si jamais qu'on a un peu moins lu ou entendu, une femme a reçu le Lion d'Or parce que oui, Audrey Diwan a exceptionnellement eu droit à un nom et à un prénom, c'est suffisamment rare pour être souligné. Mais j'ai mieux, je vous vois venir Fabienne, alors je dis non, ce n'est pas tant le fait non plus qu'un film sur l'IVG dont les droits partout dans le monde sont toujours fragilisés, contestés, voire pilonnés comme au Texas au moment même où l'on se parle, pas tellement donc qu'un film sur le sujet ait reçu la récompense suprême, et ce même si à l'origine de ce film on trouve la plume d'Annie Ernaux dont la colère et le désir ont irrigué aussi les plus jolies pages féministes de la littérature française. Non, j'ai encore mieux, écoutez bien, Audrey Diwan à venir. Julia Ducournau à Cannes, Chloé Zhao aux Oscars, 3 festivals de cinéma, 3 réalisatrices primées coup sur coup en une année. Alors, non, c'est pas encore le grand remplacement bis dont on serait tous menacés dans l'histoire de ces festivals. En tout, elles sont 4 à avoir reçu un Lion d'Or, 2 pour la Palme et 2 pour les Oscars. Bref, il y a de la marge. Hein. Mais tout de même, recevant son prix, Audrey Diwan déclarait « Quelque chose est en train de changer, ça ne peut pas être le hasard. » Et là, c'est vrai, j'ai pas mieux.
Et la palme de l'homophobie, là, pour le coup, revient à...
Je sais pas. Entre la Suisse et la Belgique, j'hésite. Alors, pour la Suisse, nous avons un contexte. D'abord, l'ouverture du mariage, de l'adoption et de la PMA aux couples homosexuels soumis à un référendum le 26 septembre. D'après les derniers sondages, une large majorité des électeurs va voter oui. Mais la date approche et le ton se durcit. Témoin ces affiches placardées au mur et circulant sur les réseaux sociaux. En noir et blanc, évidemment, parce que l'heure est grave, hein, tout de même. Un zombie, ouais. Peau décharnée et squelette apparent vous regarde droit dans les yeux avec un air pas très sympa en fait. Ce zombie, c'est le père absent, la figure du père piétiné, voire disparu avec cette réforme, en tout cas d'après le slogan qui, au cas où on n'aurait pas compris, précise « enfant avec un mort ». Ouais, un mort. Mariage pour tous, c'est non. L'affiche a choqué, son promoteur l'a défendu. Oscar Freisinger, porte-parole du comité « non à l'enfant objet », expliquait tout récemment dans la presse « ça n'est qu'une réponse au diktat des minorités, de minorités de plus en plus agressives, aux exigences de plus en plus folles ». C'est vrai que c'est fou de vouloir se marier, très très agressif surtout, de vouloir faire un enfant.
Alors ça c'est pour la Suisse, et que dit la Belgique?
Ça se passe dans la deuxième ville la plus peuplée du pays, Anvers. La nuit, sur les murs, fleurissent là aussi de drôles d'affichettes. Un arc-en-ciel, drapeau de la communauté LGBT LGBT barré. Deux mots en néerlandais griffonnés, simplement normal, renvoyant l'homosexualité à sa supposée monstruosité. Dans un contexte régional où les actes et les agressions homophobes ces derniers temps semblent se démultiplier, l'affaire est prise très au sérieux par les pouvoirs publics qui promettent de rencontrer les associations LGBT pour réfléchir à des pistes d'amélioration dans la lutte contre l'homophobie. Et avec une telle poigne, Fabienne, clairement tous les homosexuels belges vont se sentir rassurés.
Allez, un petit Alex pour terminer peut-être.
Au moment où la France se demande encore si un conjoint violent peut être un bon père, l'Espagne, elle, a tranché et c'est non. Les parents condamnés pour violence conjugale perdront du même coup tout droit de visite à leur enfant. La réforme du Code civil est entrée en vigueur la semaine dernière. Et moi, Fabienne, la semaine prochaine, je vous amène un petit peu moins de bonnes nouvelles, ça va vous calmer.
Eh ben voilà, Julia Foyce nous a prévenu. Merci beaucoup, revenez quand même la semaine prochaine.
Fabienne Saint-Ès, le 18-20.
Le monde d'après et Jean-Marc Four. Jean-Marc, c'est l'événement politique de la rentrée aux États-Unis. Les démocrates, le parti majoritaire, celui du président Biden, viennent de dévoiler les contours d'une vaste réforme des impôts. Elle vise à financer l'énorme plan de relance du président, 3 500 milliards de dollars. C'est un grand pari du mandat de Biden et c'est pas gagné. Et c'est votre monde d'après.
Oui, au moment où ce projet fiscal était dévoilé à Washington, the place to be, au même moment, hier soir, était ailleurs, à New York, pour le gala du Met, avec un défilé de stars, Billie Eilish, Rihanna, Timothée Chalamet, etc. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'égérie de la gauche du Parti démocrate, Alexandria Ocasio-Cortez, dont le talent pour la com n'est plus à démontrer, s'est présentée à ce gala avec une robe spectaculaire. Une très belle et longue robe blanche, décolletée dans le dos, et sur ce blanc immaculé, d'énormes lettres écrites en rouge, un peu façon pochoir, « Tax the rich ». Taxez donc les riches. Cette robe fait causer parce que la réforme fiscale, en effet, c'est le grand sujet de cette rentrée parlementaire outre-Atlantique. Objectif, trouver donc 3500 milliards de dollars, le montant du gigantesque plan de relance post-Covid de Joe Biden, plan baptisé Build Back Better, reconstruire en mieux. Il s'agit de financer des logements publics, des places en crèche en maternelle, plus de congés payés, et aussi d'accélérer la conversion écologique, plus d'énergie renouvelable, plus de batteries électriques, bref, plus d'investissements publics, en un mot façon New Deal de Roosevelt, en France, on dirait le cap à gauche. D'autant que l'essentiel de la somme doit donc être financée par une hausse des impôts, un mot souvent tabou aux États-Unis, hausse de 5 points de l'imposition des entreprises, de près de 3 points de la taxation des très hauts revenus, augmentation des moyens de l'administration pour lutter contre l'évasion fiscale.
Et donc ça promet une très grosse bataille parlementaire, mais pas celle qu'on croit.
Oui, il y a bien sûr l'opposition des Républicains. Ils dénoncent déjà une taxation sans précédent des Américains qui va les ruiner et détruire des emplois. Le fait est que cette réforme fiscale revient sur la plupart des baisses d'impôts accordées sous Donald Trump, en particulier aux plus riches. Mais pour Joe Biden, le souci n'est pas là. La réforme peut passer sans les Républicains, à une condition, que pas une voix ne manque à l'appel dans les rangs démocrates, parce que la majorité, on le sait, tient à un fil, précisément à une voix au Sénat, et c'est là que ça se complique. Les démocrates sont très divisés devant ce paquet fiscal, très divisés. L'aile centriste estime que ça va trop loin. Elle a trouvé son porte-drapeau, notre correspondant à Washington, Sébastien Paour, en parlait ici même hier soir, dans le sénateur de Virginie-Occidentale, Joe Manchin. Pour lui, il faut réduire le package de moitié, plutôt 1500 milliards de dollars. À l'opposé, il y a l'aile gauche, elle s'incarne dans la robe d'Alexandria Ocasio-Cortez ou dans les propos furieux de l'ex-candidat à la primaire, Bernie Sanders. Lui, il demande deux fois plus, pas deux fois moins, 6000 milliards et une hausse beaucoup plus forte de la taxation des entreprises, comme l'avait d'ailleurs promis Joe Biden à l'origine. Le texte dans sa version actuelle est donc un compromis, hein, plus petit comme un multiple, selon la formule d'un représentant à la Chambre, mais ce compromis peut exploser dans les jours qui viennent.
Et ça, c'est vraiment important pour
oui,
Biden.
Oui, c'est vraiment important. C'est même sans doute l'heure de vérité de son mandat. Oubliez les questions de politique étrangère comme le retrait chaotique de Kaboul. Une majorité d'Américains n'en juge pas Biden responsable. C'est donc secondaire. À l'inverse, avec cette réforme fiscale, on parle du cœur du réacteur, la vie quotidienne des Américains, le point central du programme de Biden. C'est là-dessus qu'il sera sans doute jugé d'abord. Il s'y joue sa crédibilité économique, évidemment, sa capacité à faire tourner la machine tout en engageant des réformes profondes sur les questions d'environnement. Et puis, il s'y joue donc aussi la préservation de l'unité d'un parti démocrate écartelé, on l'a compris, entre des courants très différents idéologiquement, un peu comme si, mettons, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient dans le même parti. L'unité des démocrates s'est cimentée pour l'essentiel l'an dernier autour de l'opposition à Trump, mais maintenant, la cohérence ne saute pas aux yeux, la cohésion encore moins. Et pour pimenter encore ce défi, la fenêtre de tir calendaire est étroite, l'accord sur ce méga package économique et fiscal doit être obtenu dans les 20 jours qui viennent, c'est le calendrier parlementaire américain, et puis plus largement, dès janvier prochain, les États-Unis vont entrer à nouveau en campagne en vue du scrutin de mi-mandat, c'est cette étrange périodicité électorale qui grippe la machine politique du pays un an sur deux finalement. Donc en résumé, le mandat de Biden se joue en bonne partie d'ici à la fin de ce mois de septembre.
Merci beaucoup Jean-Marc Foura. Demain, bien sûr, dans un instant, c'est le journal d'Hélène Philly. Juste après, il y a le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous.